l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Troisième épisode.
De la seconde sortie de notre bon chevalier Don Quichotte de la Manche et de sa grande victoire dans l'épouvantable et incroyable aventure des moulins à vent, avec d'autres événements dignes de mémoire. Après sa première sortie et durant 15 jours, Don Quichotte resta tranquillement chez lui, sans manifester le moindre désir de recommencer ses escapades. Entre-temps, il avait sollicité les services d'un paysan de son village. Un homme de bien, si tant est qu'on puisse donner ce titre à un pauvre, mais qui n'avait pas grand-chose dans la cervelle. À force de belles paroles et de promesses, il finit par persuader ce brave homme de partir avec lui et de lui servir d'écuyer.
Sache qu'à la première aventure où je gagnerai un archipel, ce qui ne peut tarder, je t'en confierai le gouvernement. Tu as donc tout avantage à m'accompagner.
Alléché par ces propositions et d'autres du même genre, Sancho Panza, c'était le nom du paysan, laissa sa femme et ses enfants pour devenir écuyer en titre de son voisin. Don Quichotte se préoccupa ensuite de trouver de l'argent et, vendant une chose, engageant une autre et perdant surtout, il finit par réunir une somme raisonnable. Il se procura aussi un bouclier de fer qu'il emprunta à un de ses amis. Puis, ayant raccommodé et renforcé du mieux qu'il pouvait son casque à visière, il avertit son écuyer du jour et de l'heure du départ pour qu'il pût de son côté faire ses préparatifs.
Et n'oublie surtout pas, Sancho Panza, de te munir d'un bissac.
Je vous le promets, monsieur le chevalier errant. Et si vous êtes d'accord, je pense emmener aussi mon âne. Car je n'ai pas l'habitude d'aller beaucoup à pied. Vous verrez par vous-même, c'est une bonne bête.
A-t-on jamais vu chevalier errant accompagné d'un écuyer à dos d'âne? Bien, j'y consens. De mon côté, j'apporterai aussi un carnet de poche. Si l'envie me venait, pendant une de nos nuits à la Belle Étoile, d'écrire un sonnet en l'honneur de ma dulcinée.
C'est ainsi qu'une nuit, Sancho Panza et Don Quichotte quittèrent le village, sans être vus de personne et sans avoir dit adieu, le premier à sa femme, le second à sa nièce et à sa gouvernante. Ils cheminèrent si longtemps qu'au lever du jour, ils étaient convaincus qu'on ne pourrait pas les rattraper, même si on se mettait à leur recherche. Don Quichotte retrouva le chemin qu'il avait pris lors de sa première sortie et qui traversait la campagne de Montiel. Mais cette fois, le trajet lui parut moins fatigant, car c'était le matin et le soleil n'était pas encore haut.
Monsieur le chevalier errant, n'oubliez pas votre promesse de me donner un archipel. Parce que vous pouvez être sûr que je saurai le gouverner, même s'il est très grand.
Apprends, Sancho, qu'autrefois, tous les chevaliers errants nommaient leurs écuyers gouverneurs des archipels ou des royaumes qu'ils avaient gagnés dans leurs aventures.
Ah.
Et j'entends bien respecter une si louable coutume. Je pense même faire mieux que mes prédécesseurs. Le plus souvent, en effet, ils attendaient que leurs écuyers fussent vieux, là de servir et de passer des jours pénibles et des nuits encore plus mauvaises, pour leur donner enfin un titre de comte ou de marquis. Mais si toi et moi sommes en vie, il se pourrait qu'avant 6 jours, j'ai conquis un empire composé de plusieurs royaumes. Ce qui tomberait à pic, car je t'en donnerai un dont tu serais couronné roi. Cela ne doit pas te surprendre. Il arrive aux chevaliers errants tellement de choses inimaginables et imprévisibles que tu pourrais bien en recevoir 10 fois plus.
À ce train-là, si je devenais roi par un de ces miracles dont vous parlez, Thérèse, ma moitié, deviendrait reine.
Hein?
Mon fils un prince et ma fille une princesse.
Qui pourrait en douter?
Moi, parce que je suis sûr que si Dieu lui-même faisait pleuvoir sur la terre un déluge de royaumes, aucune couronne ne tiendrait sur la tête de Thérèse. Sachez, monsieur, que comme reine, elle ne vaut pas 2 sous. Comtesse à la rigueur, et encore avec l'aide de Dieu.
Laissons donc à Dieu le soin d'en décider et de lui donner ce qui lui correspond. Quant à toi, Sancho, tu dois garder le front haut et refuser toute charge qui soit inférieure à celle de gouverneur de province.
Certainement, monsieur. Surtout à présent que j'ai un aussi bon maître que vous, qui va me donner ce qu'il me faut et ce qui me convient le mieux. Yeah.
Ils cheminèrent quelques instants en silence. C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine une trentaine de moulins à vent.
La chance conduit nos affaires mieux que nous pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés ? Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commençons à nous enrichir avec leurs dépouilles, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivraie.
Des géants ? Où ça ?
Là, devant toi, avec ses grands bras, dont certains mesurent presque 2 lieues.
Allons-y, monsieur. Ceux qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins. Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse.
On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Allons, mon bon Rocinante, à l'attaque.
Monsieur, je vous dis que ceux que vous allez attaquer sont bien des moulins et non des géants. Monsieur,
ne fuyez pas, lâche les villes créatures. C'est un sale chevalier qui vous attaque. Vous aurez beau agiter plus de bras que n'en avait le géant Briaré, je saurai vous le faire payer. Souveraine de mon cœur, puissiez-vous me secourir en ce péril extrême.
Bien couvert de son écu, la lance en arrêt, Don Quichotte se précipita au grand galop de Rocinante et chargeant le premier moulin qui se trouvait sur sa route, lui donna un coup de lance dans l'aile, laquelle, actionnée par un vent violent, brisa la lance, emportant après elle le cheval et le chevalier qu'elle envoya rouler sans ménagement dans la poussière.
Monsieur, oh, miséricorde, est-ce que je ne vous avais pas dit, moi, de faire attention et que c'était des moulins à vent ? Il n'y avait pas moyen de s'y tromper, à moins d'avoir d'autres moulins qui vous tournent dans la tête.
Tais-toi, Sancho. À la guerre, plus qu'ailleurs, on ne peut jamais savoir comment les choses vont tourner. Pour moi, je pense, et c'est la vérité, que l'enchanteur Freston, qui a emporté mon cabinet et mes livres, a transformé ces géants en moulins pour me ravir l'honneur de les avoir vaincus. Si grande est la haine qu'ils me portent. Mais, au bout du compte, mon épée sera plus forte que tous ces maléfices.
Et Dieu en décidera. Allez.
Sancho aida son maître à se relever et à remonter sur Rocinante qui avait le dos tout démanché. Puis, en s'entretenant de cette aventure, ils prirent le chemin de Port-Lapis. Car selon Don Quichotte, dans un lieu de grand passage, il ne pouvait manquer de rencontrer des aventures multiples et variées.
Comme tu vois, Sancho, j'ai hélas perdu ma lance dans la bataille. Je me rappelle avoir lu qu'un chevalier espagnol, Diego Pérez de Vargas, ayant brisé son épée au cours d'une bataille, arracha d'un chêne une grosse branche et s'en servit le jour même pour accomplir tant d'exploits et assommer tant de morts que le surnom de l'assommeur lui resta. Et depuis, ses descendants se sont toujours appelés Vargas Assommeur. Je te raconte cela car je compte arracher au premier chêne que je verrai une branche aussi grosse et dure que devait l'être celle-là. Et je vais, avec elle, accomplir de telles prouesses que tu seras trop heureux d'avoir eu le privilège d'y assister et de pouvoir témoigner de merveilles qu'on aura peine à croire.
Dieu le veuille. Pour ce qui est de moi, je crois tout ce que vous me racontez. Redressez-vous un peu, monsieur. Vous êtes tout de travers. C'est sans doute à cause de votre chute.
Tu dis vrai, Sancho. Et si je ne me plains pas, C'est parce qu'il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre, quand bien même une blessure leur mettrait les tripes à l'air.
Puisque c'est la règle, je n'ai rien à dire. Mais je préférerais de loin que vous n'ayez pas honte de vous plaindre quand vous avez mal quelque part. En tout cas, je peux vous dire que moi, je n'hésiterai pas à me plaindre à la moindre douleur. À moins que cette défense ne s'étende aussi aux écuyers des chevaliers errants.
Tu peux te plaindre toutes les fois qu'il te plaira, avec ou sans motif. Car dans mes romans de chevalerie, je n'ai encore rien lu qui s'y opposa.
Dites, monsieur, vous ne croyez pas qu'il est l'heure de manger ?
Je n'ai pas encore faim, Sancho. Oh. Mais je te laisse libre de prendre ton repas quand tu le souhaiteras.
Sancho ne se le fit pas dire deux fois. Il se cala du mieux qu'il put sur son âne, et tirant de son bissac des provisions qu'il y avait mises, il continua à avancer derrière son maître, mangeant sans se presser, et levant de temps à autre son outre avec un plaisir à faire pâlir d'envie le meilleur tavernier de Malaga. Quand vint la nuit, ils s'arrêtèrent sous des arbres. Don Quichotte arracha à l'un d'eux une branche sèche, qui pouvait au besoin lui servir de lance, et il y mit le fer qu'il avait ôté à celle qui s'était brisée. Il ne dormit pas un seul instant, songeant à sa dame Dulcinée, pour faire comme les chevaliers de ses livres, qui passaient des nuits entières dans les bois ou les champs à se remémorer les beautés de leur dame. Ce ne fut point le cas de Sancho. Comme il avait l'estomac bien rempli avec autre chose que de l'eau de chicorée, il dormit d'un trait jusqu'au matin.
Lève-toi, Sancho. Il est grand temps de nous remettre en selle.
Oh, monsieur. Mais le jour se lève à peine. Il est encore bien trop tôt.
Lève-toi, te dis-je.
Ils se remirent en route et vers 3 heures de l'après-midi arrivèrent en vue de Port-Lapis.
C'est ici, Sancho, que nous allons plonger les mains jusqu'au coude dans ce qui s'appelle des aventures. Mais n'oublie pas, même si tu me vois dans le plus grand péril, tu ne dois pas tirer l'épée pour me défendre. À moins que je ne sois attaqué par de la canaille ou des gens de rien, auquel cas tu t'empresseras de me venir en aide. Contre mes pères, cela ne t'est pas permis, jusqu'à ce que tu sois toi-même armé chevalier.
Comptez sur moi, monsieur, pour vous obéir sur ce point au doigt et à l'œil. D'ailleurs, je suis d'un naturel pacifique. Et je n'ai jamais aimé ni les querelles, ni les coups. Mais quand il s'agit de défendre ma personne, je ne m'embarrasse d'aucune règle, puisque les lois du ciel, tout comme celles des hommes, permettent à chacun de se défendre quand on lui veut du mal.
Je ne dis pas le contraire. Toutefois, pour ce qui est de me secourir contre des chevaliers, je te demande simplement de réfréner tes impulsions naturelles.
Oh, je vous répète que je n'y manquerai pas. Et même que j'observerai ce précepte aussi religieusement que celui du dimanche.
Ils en étaient là de leur entretien lorsqu'ils virent venir sur la route 2 moines de l'ordre de Saint-Benoît, abrités sous leurs masques de voyage et leurs parasols et montés sur des mules si grandes qu'on aurait dit des dromadaires. Derrière eux s'avançait une voiture escortée par 4 ou 5 cavaliers et 2 valets à pied. Il y avait dans la voiture, comme on l'apprit par la suite, une dame de Biscaye qui allait rejoindre son mari à Séville. Les moines et la voiture ne voyageaient pas de compagnie, mais suivaient le même chemin.
Où je me trompe fort, Sancho. Où voici venir à nous l'aventure la plus extraordinaire qu'on ait jamais vue. Ces formes noires qui approchent doivent être, et sont à n'en pas douter, des enchanteurs qui ont enlevé une princesse et l'emmènent en carrosse. À moi de redresser ce tort en y mettant toute ma force et ma vaillance.
Et ça finira encore plus mal qu'avec les moulins à vent. Voyons, monsieur, ce sont 2 bénédictins, et cette voiture appartient sans doute à des gens qui voyagent. Écoutez-moi, et prenez garde à ce que vous allez faire, d'ici que ce soit le diable qui cherche à vous tromper.
Je te répète, Sancho, que tu ne connais rien aux aventures. Oh. Ce que je dis est la vérité, et tu vas t'en apercevoir sur l'heure. Gens sans aveu et canailles diaboliques, libérez sur le champ ces nobles princesses que vous emmenez de force dans votre voiture. Ou préparez-vous à recevoir une prompte mort en juste châtiment de vos nombreux méfaits.
Qu'est-ce qu'il raconte? Regardez son allure.
On dirait un fou.
Monsieur le chevalier, nous n'avons rien de diabolique. Nous sommes de simples religieux de Saint-Benoît qui suivons notre chemin. Et nous ignorons aussi dans cette voiture Il y a des princesses qu'on emmène de force.
Je vous connais trop bien, vil parjure, et n'ai que faire de vos belles paroles.
Sans attendre la réponse, Don Quichotte éperonna Rocinante, et lance baissée, attaqua le premier bénédictin avec tant d'ardeur et de courage que si le saint homme ne s'était pas jeté à bas de sa mule, Don Quichotte l'aurait envoyé rouler à terre, gravement blessé, sinon mort. L'autre moine, témoin du traitement que l'on infligeait à son compagnon, donna de la jambe à sa bonne et grosse mule et s'enfuit épouvanté dans la campagne, plus rapide que le vent. Sancho Panza, voyant le bénédictin par terre, sauta rapidement de sa monture et se précipita pour lui ôter son habit.
Et toi, que fais-tu ? Cet habit me revient légitimement, en tant que dépouille de la bataille que le chevalier Don Quichotte, dont je suis l'écuyer, vient de remporter.
Ben voilà pour toi en guise de dépouille.
Prends ça, bête.
Il a son compte. Partons.
Voyant Sancho sans connaissance, le bénédictin, encore tout tremblant et pâle d'effroi, enfourcha aussitôt sa mule et s'empressa de rejoindre son compagnon, qui s'était arrêté à distance respectueuse pour observer la suite de cet assaut imprévu. Puis, sans attendre la fin de l'aventure, ils poursuivirent tous deux leur chemin en faisant plus de signes de croix que s'ils avaient eu le diable à leur trousse. Pendant ce temps, Don Quichotte conversait avec la dame du carrosse.
« Belle dame, vous pouvez désormais disposer de votre personne selon votre bon plaisir, car vos infâmes ravisseurs gisent à terre, abattus par ce bras redoutable. Et pour que vous ne preniez point la peine de chercher le nom de votre libérateur, sachez que je me nomme Don Quichotte de la Manche, chevalier errant et aventureux, esclave de la belle et incomparable Dulcinée du Toboso. Pour prix du service que je vous ai rendu, je ne vous demanderai rien que de faire un détour par le Toboso et de vous présenter de ma part devant cette dame afin de lui dire ce que j'ai fait pour votre délivrance.
Pardon, le chevalier, ou mal ira pour toi. Par le Dieu qui a donné vie à moi, si voiture tu ne laisses pas, tu es mort aussi sûr que tu as biscaïen devant toi.
Si tu étais chevalier, ce que tu n'es point, j'aurais déjà châtié ton arrogance et ta sottise, vile créature.
Pas chevalier, moi ? Je jure à Dieu, tant tu mens comme moi, je suis chrétien. Si tu jettes lance et prends épée, tu verras qui des deux est plus fort. Biscayen, toujours gentilhomme, par mer, par terre, par diable, et gare à toi. Tu mens si tu dis autre chose.
C'est ce que nous allons voir.
Le Biscayen n'eut même pas le temps de sauter à bas de sa mule. Et il fut bien forcé de mettre la main à l'épée. Heureusement pour lui, il se trouvait près de la voiture où il prit un coussin dont il se fit un bouclier. Et ils se jetèrent l'un sur l'autre, comme s'ils avaient été des ennemis mortels. Au cours de ce combat furieux, le Biscayen asséna un coup si violent à l'épaule du Don Quichotte qu'il l'aurait fendu en deux jusqu'à la ceinture si l'écu ne l'avait protégé.
Oh, Dulcinée, dame de mon cœur, fleur de beauté, venez en aide à votre chevalier qui, pour rendre hommage à la perfection de vos vertus, s'est mis en ce péril extrême. Allons, poursuivons le combat et ôtons une bonne fois pour toutes la vie à cet arrogant.
Hélas, ici s'interrompt le récit de la bataille. L'auteur s'en excuse, expliquant qu'il n'a pu trouver la suite des écrits relatant les exploits de Don Quichotte. Pourtant, je ne pouvais croire qu'une si plaisante histoire pût rester ainsi estropiée, et même si elle n'était pas écrite. Les gens de son village et des environs devaient l'avoir gardée en mémoire. Je n'en étais que plus impatient et désireux de connaître d'un bout à l'autre la vie et les prodiges de notre illustre Espagnol, Don Quichotte de la Manche, lumière et miroir des chevaliers errants de son pays, le premier qui, en cette dure époque où nous vivons, avait choisi de consacrer sa vie à venger les offenses, à secourir les veuves, à protéger les jeunes filles. Voici donc de quelle manière je finis par la découvrir. J'étais un jour dans la rue des Merciers à Tolède, quand arriva un jeune garçon qui venait vendre de vieux cahiers à un marchand de soie. Comme j'aime beaucoup lire, je me laissai aller à mon penchant et pris un des cahiers que le garçon s'apprêtait à vendre. Voyant qu'il était écrit en caractère arabe, que j'étais capable de reconnaître mais non de déchiffrer, je me mis aussitôt en quête d'un morisque parlant notre langue. Je trouvai sans peine mon interprète, lui expliquai ce que je voulais et lui remis le livre.
De quoi riez-vous ?
D'une note indiquée en marge. Voici ce qui est écrit. Il paraît que cette Dulcinée du Toboso, dont il est si souvent question dans notre histoire, n'avait pas sa pareille dans toute la Manche pour saler le cochon.
Au nom de Dulcinée du Toboso, je restais frappé de stupeur. Et je soupçonnais aussitôt que ces cahiers contenaient l'histoire de Don Quichotte.
Lisez donc à partir du début, je vous en prie.
Histoire de Don Quichotte de la Manche, écrite par Sidi Ahmed Benengeli, historien arabe.
Tiens, petit, pour toi.
Merci.
On échange tous ces cahiers.
Voilà, monsieur.
Et vous, suivez-moi.
Bien, monsieur.
J'entraînai aussitôt le morisque dans le cloître de la cathédrale. Je souhaite que vous me traduisiez tous les cahiers qui parlent de ce Don Quichotte, sans rien ajouter ni retrancher. Je vous offre à l'avance le prix que vous voulez.
50 livres de raisins secs et 10 grands boisseaux de blé feront l'affaire, monsieur. En échange, je vous promets de les traduire fidèlement et aussi vite que possible.
Pour plus de sûreté, car je ne voulais pas laisser échapper pareille trouvaille, j'emmenai le morisque chez moi où, en l'espace de quelques 6 semaines, il me traduisit toute l'histoire telle que je la rapporte ici, et comme on le verra dans le prochain épisode.
À suivre. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Un feuilleton adapté par Juliette Eman. D'après le roman de Miguel de Cervantes. Traduit par Aline Schulman. Et publié aux éditions du Seuil. Conseillère littéraire, Catel Guillou.
Troisième épisode.
Avec
Daniel Kenninsberg,
Bernard Ménez,
Laurent Ferraro,
Claude Bernard Perrault,
Jean-Baptiste Artigas,
Jemel Barek
et Pauline Ziadé.
Musique originale,
Sébastien Schuller.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossière.